Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi.
Je m'appelle Valérie Asselot, j'ai 54 ans. J'ai vécu une première carrière dans la banque ou dans la finance où je faisais des maths appliquées à la finance. Et oui, tous les chemins mènent à Rome. Et en fait, j'ai opéré il y a assez longtemps déjà, 16 ans maintenant, une reconversion professionnelle à un moment où c'était plutôt rare. C'était plutôt rare parce que les carrières étaient beaucoup plus tracées, parce qu'on aspirait à des choses totalement différentes. Et avec le recul, je me sens plutôt en avance de phase sur le besoin d'être aligné avec soi-même à travers son travail, à travers la contribution qu'on apportait avec son travail. Et sans doute que notre connexion commune, Frédéric Havard, parce que nous avons eu des conversations sur ces sujets-là, s'est dit que ça pouvait être intéressant que je te raconte ce parcours et peut-être ce que je me suis raconté à ce moment-là où j'ai fait un saut dans le vide et pour mon plus grand bonheur aujourd'hui puisque j'ai une vie professionnelle beaucoup plus épanouie que je n'ai pu l'avoir dans cette période précédente de ces 13 ans dans la finance.
D'accord Valérie, alors tu vas nous raconter ça. J'ai fait un rapide calcul, je ne suis pas dans la finance mais il me semble que c'était autour de 38 ans lorsque tu as opéré ce bond. Qu'est-ce qui a fait que, alors que j'imagine tu étais dans un certain confort, on va le dire comme ça, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de changer? Et quand tu parles de rebond ou en transformation sur le plan professionnel, est-ce qu'il a été radical? Raconte-nous.
Oui, alors en fait, c'est une histoire très personnelle et j'ai grand plaisir à la raconter parce que ça fait partie de mon ADN d'être authentique, d'être transparente. En fait, dans mon dernier job où j'étais en charge des relations presse au service au Crédit Lyonnais, donc pendant une partie de la crise de l'institution, j'ai eu deux enfants. J'ai eu une fille qui a aujourd'hui 22 ans et un garçon qui a 20 ans aujourd'hui. Et quand mon fils est né, il avait de très graves problèmes d'allergie alimentaire et j'ai dû m'arrêter de travailler, ce qui a été un premier séisme parce que j'étais plutôt orientée vers ma carrière que dans l'optique d'être maman à la maison. Et en fait, ça m'a amené à avoir une grande réflexion sur ma vie en général. Et plus loin que ça, en fait, mon fils souffrait de crises d'asthme très, très importantes. Et pendant un an, on allait tous les mois à Necker pour qu'il soit mis sous nébulisateur pour traiter ses crises d'asthme. Et ça m'a beaucoup questionnée et j'ai commencé à ce moment-là une thérapie parce qu'en fait, j'avais été élevée selon un modèle assez traditionnel dans notre société qui était le fait d'être une femme parfaite. Donc, je m'étais construite en me disant que j'allais être une mère parfaite, une épouse parfaite, une professionnelle parfaite. Et là, avec la naissance de mon fils qui avait une santé imparfaite, ça a remis beaucoup de choses en cause. Et à l'occasion de cette thérapie, j'ai appris à accepter la maladie de chronique de mon fils, qui était l'asthme. Et à partir de ce moment-là, il y a eu en fait une hospitalisation qui a duré plus longtemps. Et quand je suis arrivée à l'hôpital avec lui, je me souviens encore, je vois très bien le couloir de l'hôpital et je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir que j'accepte cette situation. Et de ce moment-là, mon fils n'est plus jamais allé à l'hôpital pour son asthme. Et ça a été cette prise de conscience a été extrêmement forte. J'étais très fusionnelle avec mon fils. Et en fait, je pense que je l'empêchais d'accepter lui-même sa maladie. Et ce changement radical d'ampleur de sa maladie, juste parce que moi je l'acceptais, a été une révélation sur le fait que finalement, dans nos vies, nous avons la perception de certaines situations dans un sens ou dans un autre, avec une intensité plus ou moins forte, et cela peut énormément jouer sur beaucoup de facteurs et notamment la santé. Et cette révélation, finalement, je me suis dit, là, je me suis sentie porteuse, alors si ce n'est d'un message, pas d'une certitude, hein, mais d'une vérité qui était la mienne, qui était qu'il était hyper important de prendre soin de sa, alors à l'époque on l'appelait pas comme ça, de sa santé mentale, pour vivre une meilleure vie, pour vivre une vie plus harmonieuse, plus en adéquation avec soi-même, avec son identité, avec ses valeurs, avec qui on est profondément.
Ce travail, donc tu as parlé d'une thérapie, ça a duré combien de temps ? Cette phase de transition pour en arriver à la conclusion que tu fais, ça t'a demandé combien de temps ?
Ça m'a demandé 4 ou 5 mois, je crois.
Donc ça a été quand même assez rapide.
Oui, alors ça fait partie de mes caractéristiques et peut-être aussi du fait que une des raisons pour lesquelles je suis en ligne avec toi aujourd'hui, je suis quelqu'un qui va vite. Voilà, ça fait partie de mes qualités, sans doute de mes grands défauts, parce que je suis aussi très impatiente. Et donc, quand je définis des choses, quand des choses deviennent prioritaires à mes yeux, j'y vais à fond, je vais vite, et ça a amené effectivement à ce résultat-là. Mais je pense que sur ce sujet-là spécifique de la santé de mon fils, j'ai dû ressentir profondément une urgence, et j'ai traité l'urgence.
Tu as traité l'urgence, alors tu as utilisé des mots, tu as parlé tu t'es défini comme authentique. Je sens que tu es aussi quelqu'un de très pragmatique, on peut le dire de cette façon-là. Alors parle-nous maintenant, si tu veux bien, de cette reconversion, en tout cas de ce mouvement que tu as opéré juste après cette prise de conscience.
Oui,
finalement.
Oui, complètement. Alors en fait, il y a des moments dans la vie où tout s'aligne, où, comme on dit, les planètes s'alignent. Et il se trouve qu'à ce moment-là, au moment où je suis rentrée de congé parental, le Crédit Agricole avait racheté le Crédit Lyonnais. Et le Crédit Lyonnais avait concocté un plan social, un plan de sauvegarde de l'emploi, comme on l'appelait à l'époque, avec des conditions très intéressantes pour différentes possibilités, soit quitter l'entreprise et reprendre un job identique ailleurs. Enfin, il y avait différentes options. Et il y avait une option reconversion professionnelle, et nous avons été très peu à prendre ce chemin-là. Mais là, si tu veux, j'avais un boulevard devant moi avec pendant un an, j'étais payée à me reconvertir. Pendant un an, ma formation à HEC, qui coûtait assez cher, m'était offerte par la banque. Donc, tous les voyants étaient au vert. Mais j'ai fait le saut dans le vide avec une conviction profonde que c'était mon chemin. Je n'avais absolument aucune idée de comment j'allais m'y prendre, parce que je n'avais jamais eu dans mes jobs précédents de clients, je n'avais aucune formation commerciale, je n'avais jamais eu de job dans les RH, mais je savais profondément que c'était cette voie-là que je voulais, parce qu'il y a un épisode que je rate, mais c'est qu'au moment où j'ai eu ces révélations, on va dire, à travers ma thérapie, j'ai commencé à me dire, ok, j'ai envie d'en faire quelque chose sur le plan professionnel, mais quoi ? Et je voulais pas devenir thérapeute, je me projetais pas dans ce métier-là. Et du coup, j'ai cherché un petit moment avant d'arriver au métier de coach qui était encore méconnu, puisqu'on parle des années 2003-2004. J'ai fini par me connecter à travers des outils de coaching qui étaient l'analyse transactionnelle et la programmation neurolinguistique, la PNL. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à identifier le métier de coach. Et donc, quand j'ai souscrit au plan social, j'ai choisi cette option. J'étais accompagnée par un cabinet dans la mise en œuvre de mon plan d'action. Mais le saut était véritablement dans le vide pour les raisons que j'indiquais. Il n'y avait aucun lien que je pouvais faire, si ce n'est toute l'expérience professionnelle que j'avais pu avoir dans la finance.
D'accord. Alors, au moins deux nouveautés dans ce que tu nous racontes. L'aspect entrepreneurial, tu dois t'inventer entrepreneur comme on le précise aujourd'hui. Et deuxième point, et ça c'est une question, tu as envie visiblement de transmettre, puisque tu veux être coach, ça veut dire que tu as envie d'être au contact des autres et tu as envie de les emmener sur un terrain, un territoire que tu maîtrises peut-être. Alors, explique-nous ce que tu proposes.
Alors, à l'époque, je faisais du coaching de performance. En fait, à l'époque, il y avait deux types de coaching. Il y avait le coaching de performance, c'est-à-dire quelqu'un a un grand projet à mettre en œuvre ou a quelque chose à mettre en œuvre très rapidement. Et donc, on appelait ça le coaching de performance. Et c'était plutôt ma priorité, enfin, ce que je préférais faire, parce qu'en fait, ça mobilisait toutes les forces, toutes les ressources d'une personne qui n'était pas particulièrement en difficulté. Et en fait, ça l'amenait à gagner du temps. Donc, les coachs, dans cette optique-là, sont plutôt des accélérateurs de performance. Et puis, il y avait un tout autre métier qui était remettre sur les rails des personnes qui étaient en difficulté. Et ça, c'était assez compliqué parce qu'en fait, à l'époque, les DRH ne prescrivaient pas le coaching de manière aussi, j'ai envie de dire, déontologique aujourd'hui. Alors, je c'est pas une critique, hein. Je pense que tout le monde tâtonnait dans le métier. C'est plus un constat a posteriori. Et du coup, il est arrivé que j'ai des personnes en difficulté dont on ne me disait pas que c'était un peu le coaching de la dernière chance, mais dans la réalité des faits, ça l'était. Et ça, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait, il fallait aller chercher des ressorts qui était beaucoup plus psychologique. Donc, il m'est arrivé de nombreuses fois de recommander qu'en parallèle du coaching, il y ait une thérapie qui soit menée parce qu'il y avait il y avait des sujets à adresser, il y avait des points à traiter et que je ne suis pas formée pour ça et ça n'est pas mon souhait. Moi, je suis quelqu'un qui est orienté résultat et qui, quel que soit le point de départ, souhaite amener la personne dans, on va dire, une meilleure version d'elle-même en toute humilité. C'est-à-dire que je me vois comme un accélérateur de performance ou un accélérateur de prise de conscience qui permette de dépasser certains freins que mes coachés avaient, ça reste quand même dans une optique orientée résultat.
Alors, tu l'as dit, c'était un petit peu le début des coachs. Alors, on sait que des coachs, il y en a de tous ordres et, j'irais, de toutes compétences pour réaliser toutes sortes de missions. Quel bilan tu fais aujourd'hui après ces années? D'abord, est-ce que, j'imagine que ta pratique a dû évoluer? Si on devait faire un bilan, là, aujourd'hui, de cette pratique de coach, qu'est-ce que tu dirais?
Alors, il y a deux choses. Il y a évidemment ma pratique qui a évolué parce que je peux plus être la même coach qu'il y a 16 ans, parce que j'ai gagné beaucoup d'expérience. Et puis, j'ai gagné de nombreuses années de vie aussi, parce que des années de 38 à 54 ans, ce sont aussi des années marquantes dans nos vies personnelles. Et je dirais que le métier a beaucoup évolué. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est toujours finalement dans la même logique, mais là où je vois une évolution, c'est que les personnes qu'on peut avoir en coaching et qui sont en difficulté, ça peut être, on va dire, un point de départ beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il m'arrive d'avoir des coachings où les personnes reviennent au travail après des burn-out, après une maladie grave. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est dans la même lignée que ce qu'on a pu avoir, comme je le décrivais il y a 16 ans avec des personnes très en difficulté. Sauf que là, ce qui a changé et ce qui est très positif dans le contexte de l'entreprise, c'est que les entreprises veulent sincèrement les accompagner pour qu'ils puissent réintégrer. Donc c'est pas, il y a plus de coaching de la dernière chance. Donc ça, c'est en tout cas mes clients ne viennent pas vers moi pour ça. Peut-être qu'ils vont vers d'autres coachs, je n'en sais rien, mais avec mes consoeurs ou mes confrères, je n'entends plus parler de ça. Donc je pense que ça a dû quand même beaucoup disparaître. Et puis il y a beaucoup de coachings qui sont liés au monde d'aujourd'hui, qui vont être par exemple accompagner un directeur ou une directrice de l'innovation, de la transformation digitale, là pour vraiment accompagner des personnes qui sont très techniques, qui sont très pertinentes sur le plan technique et qui ont besoin de, comme on dit un peu trop, de manière un peu galvaudée, de mettre l'humain au centre des transformations qu'ils ont à mettre en œuvre. Et c'est vraiment ça pour moi principalement l'objet de mes missions de coaching. Et puis, il y a une troisième dimension que je n'avais pas il y a 16 ans et que j'ai développée plutôt depuis 10 ans, qui est le coaching des femmes. Et le coaching des femmes salariées qui rentrent dans des comités de direction, qui prennent des mandats d'administratrice pour répondre aux quotas, pardon pour le vilain mot ou la vilaine connotation dans les conseils d'administration, et puis des femmes entrepreneurs comme tu as pu le préciser, qui, elles, ont une belle carrière derrière elles et qui veulent apporter une contribution différente à travers une création. J'accompagne plus de femmes, on va dire 40 et 50 ans, que de trentenaires. Donc, les jeunes entrepreneurs, elles ne viennent pas vers moi, mais il y a plein d'autres coachs qui sans doute s'occupent très bien d'elles.
Tu vas ou tu attires des femmes qui à qui tu ressembles?
Oui,
ou qui
sans doute. On a pour habitude de dire entre coachs que on attire à soi les personnes qui veulent acquérir quelque chose que nous avons nous-mêmes. Donc c'est très juste, c'est ce que tu disais au tout début. Je pense que dans le choix du coach, il y a beaucoup de projections qui peuvent intervenir, c'est-à-dire que un coaché, quand il va rencontrer un coach, dans le cadre d'un processus qu'on appelle le shopping, où il rencontre deux ou trois coachs pour faire son choix, en fait, dans ce cadre-là, je pense que le choix du coach se fait beaucoup sur consciemment ou inconsciemment. Je vais acquérir cette chose que cette personne a et qui me plaît chez elle.
J'aimerais qu'on revienne sur la notion d'audace. Alors, en quoi, Valérie, alors je te provoque un petit peu, mais en quoi tu te sens audacieuse? Alors, à l'époque, à 38 ans, on a entendu que tu étais un peu atypique dans le paysage, mais explique-moi en quoi, pour toi, tu es une audacieuse.
Alors, à l'époque, c'était faire le saut dans le vide, parce que j'étais, comme on qualifiait à l'époque, à potentiel, donc j'étais identifiée pour faire une carrière toute tracée, et beaucoup de gens m'ont dit, ça a été une grosse prise de conscience à l'époque aussi, beaucoup de gens m'ont dit, ah là là, t'as beaucoup de courage de partir comme ça, quitter cette carrière toute tracée. Et en fait, très spontanément, mais comme si ça n'était pas moi qui parlais, je leur ai répondu, ah non, je crois qu'il m'aurait fallu beaucoup de courage pour rester. Et en fait, c'est comme si ma bouche savait avant moi tout ce que j'allais vivre, parce qu'en fait, je n'avais pas d'éléments tangibles pour sortir ces mots, et pourtant ils sont sortis de ma bouche à l'époque. Alors, en quoi je serais une audacieuse aujourd'hui? Je dirais en prenant autant d'authenticité et en expliquant beaucoup à ces femmes que j'accompagne que ça n'a aucune importance de ne pas être aimé de tous, de ne pas être apprécié de tous. En fait, un des drames de nos sociétés actuelles, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et je crois que ça, c'est un leurre, parce que le monde est riche de beaucoup de personnalités et de beaucoup d'opinions et de beaucoup de visions du monde, et que c'est hyper OK de n'avoir autour de soi que sa tribu, mais d'avoir une belle tribu, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle. Et je crois que ça peut paraître très simple quand je le dis, mais être soi-même, pour moi aujourd'hui, c'est une vraie audace.
Alors, c'est une audace, et en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que Visiblement, les femmes que tu coaches n'ont pas forcément cette caractéristique-là en elles. Alors pourquoi? Comment tu l'analyses? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont envie de plaire au maximum? Si c'est
je pense qu'on est, on est encore, et on voit l'évolution de l'égalité femmes-hommes qui est quand même extrêmement lente. Je pense qu'on est encore dans tous ces principes judéo-chrétiens de la femme parfaite, de vouloir être... On parle aujourd'hui beaucoup de charge mentale, mais cette charge mentale, elle n'existe que parce qu'on veut tout faire et tout faire parfaitement, ne rien lâcher, mais aussi par des diktats de modèles, de Wonder Woman. Et je pense que aujourd'hui, on est encore complètement dans ces croyances qu'il faut être parfaite, qu'il faut être consensuel. Et je pense qu'il y a aussi une grosse confusion sur la place des femmes dans les hautes sphères, et que beaucoup de femmes encore croient à tort qu'il faut qu'elles incarnent et qu'elles intègrent des modèles de pensée et des comportements masculins, et du coup cette confusion fait que elles ne sont pas forcément performantes dans l'acquisition de ces modèles parce que ça ne leur correspond pas, et que ça soit des modèles de pensée ou de comportement, et du coup ça ne fonctionne pas, et je pense que il y a un gros travail à faire encore pour convaincre les femmes d'être elles-mêmes, mais aussi pour convaincre les hommes que avoir des femmes qui sont elles-mêmes et qui apportent leur propre contribution, leur propre valeur ajoutée, ça a beaucoup de valeur. Et je pense qu'on en parle beaucoup aujourd'hui de cette diversité, pas seulement d'ailleurs dans l'égalité femmes-hommes, hein, sur tous les plans. Et cette diversité, elle n'est pas encore, elle est acquise intellectuellement, mais pour moi, elle n'est pas encore acquise émotionnellement dans la pratique de ce que je peux voir dans les sphères de direction dans les entreprises.
D'accord. Donc en fait, ce que tu dis là, c'est que pour en tout cas les femmes que tu côtoies, qui ont entre 40 et 50 ans, elles sont encore, je dirais, dans cette idée de la femme qui coche toutes les cases, qui est une super executive woman dans tous les sens du terme, une super mère, une super épouse. Mais ce modèle-là, on sait très bien qu'il a eu ses limites, qu'il les a. On voit bien, tu as utilisé le mot tout à l'heure, tu as parlé de burn-out. Ça, c'est un mot qui est un peu sur toutes les lèvres aujourd'hui dans les entreprises. Elles se rendent quand même bien compte, ces femmes, des limites de l'exercice. Et d'autre part, puisque tu discutes avec tes collègues coachs qui, elles, ont peut-être affaire parfois à des femmes plus jeunes, est-ce que tu sens une différence avec les autres générations?
Alors, je sens une différence parce que effectivement. Beaucoup dans la jeune génération sont soucieuses de garder un équilibre, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes femmes trentenaires n'ont pas forcément envie, y compris les femmes ambitieuses, n'ont pas forcément envie de tout sacrifier à leur carrière comme nous on a pu le faire à l'époque. Donc ça c'est plutôt un point positif. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, je souscris à ce que tu disais, Carole. Pour autant, je pense qu'il y a le rôle des hommes est très important. C'est-à-dire que les hommes veulent garder leur place privilégiée dans les directions et on les comprend. Je vois des hommes qui ne sont pas promus et voient une femme promue au poste qu'ils briguaient. Beaucoup d'entre eux ont la phrase de « Ah oui, on a mis une femme au job que je devais avoir parce qu'il fallait nommer une femme. » Alors, sans doute, à certains moments, c'est vrai, et sans doute que à certains moments, ils auraient besoin d'ouvrir les yeux sur une réalité qu'une femme peut être tout à fait aussi compétente qu'eux. Maintenant, je pense qu'il y a... tout amène à des abus, donc il devait y avoir aussi des nominations qui sont pas forcément à propos. Ce que je voulais dire par là, c'est que les hommes renvoient ça, les hommes ont envie de la nature humaine, c'est de garder, de conserver ce que l'on a acquis. Maintenant, la nature humaine, c'est aussi le changement. Par essence. Donc là, on arrive, je pense, à un peu une croisée des chemins où personne ne veut lâcher son modèle, même si tout le monde intellectuellement reconnaît ses failles et ses limites. Dans la réalité des faits, ça n'est pas encore probant on ne voit pas des évolutions suffisamment marquées pour dire que les choses se traduisent dans la réalité. On est encore dans des vœux pieux, beaucoup.
D'accord. Alors, les femmes que tu côtoies, que tu rencontres, que tu coaches, qui ont entre 40 et 50 ans, est-ce que l'entrepreneuriat les tente, est-ce que ça les fait rêver de sortir de leur, de leur sillon pour faire ce que tu as fait, finalement, à ta façon, il y a 16 ans?
Oui. Alors, beaucoup d'entre elles, effectivement, sont tentées. Beaucoup d'entre elles sont tentées parce qu'elles ont des idées qui leur tiennent à cœur et qui sont vraiment importantes. Je pense notamment, j'ai envie de citer une femme que je connais bien, qui s'appelle Solène Bocquillon, le Goisillou, et qui a créé une start-up formidable qui s'appelle Soft Kids. En fait, elle était DRH chez Shell et pendant de longues années, et elle a créé une appli pour développer les soft skills des enfants. Parce qu'elle est convaincue, et je suis convaincue avec elle, que finalement, apprendre les compétences relationnelles qui sont les compétences les plus importantes dans un monde où les compétences techniques se deviennent obsolètes de plus en plus rapidement, c'est quelque chose qui mérite d'être fait dans l'enfance, justement pour éduquer les enfants à la bienveillance, au respect, à la gentillesse, à la confiance en soi. Et donc elle a changé de carrière il y a 2 ans maintenant. Et c'est une femme que je trouve très épanouie dans ce qu'elle fait. Alors dans son job de DRH, elle était déjà complètement alignée avec ses valeurs et avec ce qu'elle aimait faire. Mais là, elle a franchi pour moi un cap notoire dans le fait de créer elle-même un job qui a du sens pour elle et qui a du sens pour toute sa vision de l'éducation, sachant qu'elle est maman de 3 garçons, qu'elle éduque aussi dans un respect de l'égalité femme-homme très fort. Donc là, pour moi, elle est emblématique de l'envie que de nombreuses femmes peuvent avoir de rayonner et d'apporter une contribution au monde qui nous ressemble. Et sans doute que c'est quelque chose que je vois un peu plus, mais parce que je n'accompagne pas ou très peu d'hommes entrepreneurs. Du coup, je veux pas faire une généralité ou une restriction, mais les femmes entrepreneurs que j'accompagne, elles sont vraiment mues par ce désir et cette volonté.
Valérie, pour finir notre conversation, j'aimerais que tu me dises comment Valérie, l'audacieuse de 54 ans, se projette dans les 10 prochaines années.
Merci pour ta question, parce qu'elle est complètement en ligne avec ma rentrée. Dans cette rentrée, je lance un grand projet, un grand programme de mentoring au féminin qui s'appelle CAP. Qui est un programme intergénérationnel, qui est un programme multisectoriel et multi-entreprise, où en fait j'ai recruté des femmes mentors pour mentorer des femmes de 10 ans plus jeunes qu'elles. En fait, j'ai observé que par dizaines d'années, à la trentaine, à la quarantaine, à la cinquantaine, nous passions à peu près toutes par les mêmes caps, et que en fait, quand nous étions bien conseillées par des aînés, nous pouvions passer ces caps de manière accélérée. Et du coup, j'ai créé ce programme que je promeus sur LinkedIn. Et ce programme se lance là au mois de septembre. Et en fait, ce programme, il a pour vocation de chercher à transmettre au plus grand nombre de femmes possible tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 16 dernières années et aussi pendant mes années dans la finance, parce que je naviguais dans un univers extrêmement masculin. Et du coup, la projection des 10 prochaines années, c'est cette transmission. Tu parlais de cette caractéristique que j'avais. Effectivement, j'aime beaucoup transmettre. Et là, dans ce programme, pour moi, je mets mes 30 ans de vie professionnelle et à travers un processus un peu complexe de programme de mentoring, je vais pouvoir transmettre au plus grand nombre tout ce que j'ai appris et peut-être l'audace aussi. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas, si effectivement il y a encore ce travail à faire de ne pas vouloir plaire à tout le monde, comme tu l'as dit, c'était ta définition de l'audace. Valérie, je te remercie. Pour avoir plus d'informations concernant ce mentoring, est-ce que tu peux nous donner quelques indications ? On te retrouve comment ?
Retrouver sur mon profil LinkedIn les éléments du programme Captain et évidemment une vidéo de présentation. Je vais en publier tout au long du mois de septembre davantage et puis surtout vous pouvez me contacter.
Alors Captain, ça s'écrit comment dernière ?
Alors comme un cap, CAP, TEN, oui. Pour les 10 ans d'écart entre mentor et mentoré.
Voilà, et ben c'est bien ce que je suis beau d'oreille. Merci beaucoup Valérie et puis écoute, bonne route pour ces 10 prochaines années.
Merci Carole.
À bientôt Valérie, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.